Bonjour à tous. Près de 10 millions de personnes sont concernées ce matin à partir de 8 heures. Masque obligatoire partout à Paris et dans la petite couronne, c'est-à-dire en Seine-Saint-Denis, dans les Hauts-de-Seine et dans le Val-de-Marne. Piétons, vélos, scooters, trottinettes, tout le monde est concerné. Alors que le pays vient d'enregistrer plus de 6000 cas de Covid-19 en 24 heures. Une mesure qui s'ajoute au protocole sanitaire appliqué un peu partout dans le pays et notamment dans 21 départements classés rouges. Mesure en fonction des secteurs. Hier, les universités, par exemple, ont précisé les règles à suivre pour les étudiants qui vont reprendre le chemin des cours à partir de la semaine prochaine. La rentrée est étalée sur 2 mois avec de nombreux cours en décalé et à distance. Nous ferons le point sur ce protocole dans le journal de 6h30. Dans une demi-heure également, vous entendrez la réaction d'un représentant des théâtres privés. Comme la majeure partie de ses collègues, il salue l'enveloppe de 2 milliards d'euros débloquée pour la culture, dont 432 millions pour le spectacle vivant. Le gouvernement promet également la prolongation du chômage partiel pour les intermittents jusqu'au 31 décembre dans le secteur de la culture donc. Donald Trump se déchaîne sur son rival à la présidentielle, le démocrate Joe Biden, un homme faible aux mains de la gauche radicale, selon Donald Trump, qui s'exprimait en clôture cette nuit de la Convention nationale des Républicains. Le président sortant a sans surprise accepté l'investiture de son parti pour l'élection du 3 novembre prochain. Trump qui promet par ailleurs de taxer les entreprises qui vont quitter les États-Unis pour l'étranger. La campagne électorale est bel et bien lancée. Et ce n'est pas pour une campagne électorale, mais pour convaincre son camp nationaliste et islamiste que le président turc joue en ce moment le bras de fer avec l'Union européenne. Erdogan a prolongé hier ses recherches gazières dans une zone revendiquée par Athènes en Méditerranée. Analyse de cette décision politique dans le journal de 6h30.
Chaque jour à 14h, entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Roquigny.
Depuis le début de l'épidémie, les déficits explosent. Jamais les États n'avaient déboursé des sommes aussi colossales pour tenter d'éviter l'effondrement. Aurait-on trouvé de l'argent magique, selon la formule d'Emmanuel Macron ? Deux économistes, Jean-Marc Daniel et Laurence Sialom, viendront en débattre dans Entendez-vous l'écho.
L'argent magique existe-t-il ? Le débat d'Entendez-vous l'écho, ce vendredi à 14h et sur franceculture.fr.
Tout Radio France dans votre mobile ? Avec France Inter, France Info, France Culture, France Musique, FIP, Move ou France Bleu et ses 44 radios locales, retrouvez toutes nos radios en direct et un catalogue de plus de 500 000 podcasts à explorer. Avec l'appli Radio France, vous pouvez écouter la radio quand vous voulez, où vous voulez et comme vous voulez. Téléchargez-la dès maintenant sur les principaux stores.
Il est 6h03 sur France Culture. Avant de retrouver Toufik Hakem dans quelques minutes pour le réveil culturel, c'est Bruno David qui est avec nous pour Le Monde Vivant. Il est consacré ce matin aux griffés du diable.
L'habitant qui, le soir, franchit le porche de sa demeure puis remonte chez lui en empruntant le bel escalier de pierre d'une vieille maison lyonnaise, sait-il où il pose les pieds ? Se doute-t-il qu'il frôle le diable ? Remontons près de 200 millions d'années en arrière. Nous sommes au début du Jurassique, à l'époque d'un état géologique qui tire son nom de ce mur en ossoie en Bourgogne, le Sinémurien. À l'emplacement de la France actuelle, la mer sinémurienne est belle, tempérée et peu profonde, même si elle se montre parfois houleuse. Elle borde les reliefs du massif armoricain, des Ardennes et du massif central, et s'ouvre vers le large, à l'est. Cette mer abrite une faune riche et variée, notamment de nombreux mollusques, gastéropodes, bivalves fouisseurs, une grande diversité d'ammonites qui nagent à différentes profondeurs et une espèce d'huître dont la coquille présente une valve très creuse, de forme arquée, surmontée d'une valve couvercle assez plate, la griffée. Les griffées vivaient à la manière des huîtres actuelles, se nourrissant en filtrant le plancton. Elles vivaient quelques décennies, comme en attestent les stries de croissance très marquées qui ornent leur coquille. Elles étaient posées sur le fond où elles formaient des accumulations très denses qui ont donné leur nom au calcaire à griffées, pierre de construction largement utilisée du Lyonnais à la Bourgogne pour édifier linteaux, encadrements de fenêtres et escaliers, à la surface desquels apparaissent en coupe les contours de nos griffées. Mais pourquoi diantre avoir évoqué le diable ? La forme arquée des griffées évoque celle d'une griffe. Les stries, qui ornent leur coquille, rappellent en plus grossier celle d'un ongle. Par ailleurs, leur coquille épaisse, ce sont des fossiles très robustes, leur a permis d'arriver jusqu'à nous en bon état et en nombre. Dans les localités où affleure le cinémurien, il est très courant d'en trouver dans les labours ou le long des sentiers. Trois bonnes raisons de penser que ces griffés ont une origine diabolique. D'ailleurs, les croyances médiévales les considéraient comme les griffes du diable, arrachées lors de ses courses folles à la poursuite des âmes en perdition. J'en déduis que le diable était pourvu de nombreuses griffes et qu'il courait beaucoup. Mais ce n'est pas tout. La griffée courbée sur elle-même ne peut plus se redresser. Elle semble souffrir du dos. En posséder était donc un remède souverain pour éloigner vers elle douleurs osseuses et arthrites. Existait-il un commerce de griffée hors des contrées où on la trouve? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que les hôtes des vieilles demeures lyonnaises ne doivent pas souvent avoir mal au dos. Effet curatif de l'exercice imposé par l'usage des escaliers ou effet des griffées, la science tranche, mais le rêve subsiste.
Mettez vos sens en éveil, 6h, 7h, les petits matins de France Culture.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, bienvenue dans le réveil culturel. On reprend les bonnes vieilles habitudes. Le vendredi, c'est l'actualité de la bande dessinée. La bande dessinée, toujours, tout style confondu. Et aujourd'hui, je reçois l'auteur Simon Hureau qui raconte dans sa dernière bande dessinée, l'Oasis, comment, à partir d'un jardin en friche, il va redonner vie à la biodiversité. C'est édité chez Dargo avec une préface du botaniste, ingénieur horticole et jardinier, Gilles Clément, qui sera également présent avec nous. C'est un petit matin très vert. Après la chronique de Bruno David, on va parler enfin de nature, mais alors très proche de la nature.
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Bonjour Simon Hureau.
Bonjour.
Il y a un peu plus de 10 ans, vous décidez de quitter la région parisienne pour vous installer progressivement en Touraine. C'est histoire, d'abord une histoire d'avoir plus d'espace pour la famille et de profiter pleinement de la nature. Et puis une fois installé à Langeais, c'est en Indre-et-Loire, vous découvrez le plaisir du jardinage. Vous allez peu à peu, de découverte en mésaventure, il faut le dire, redonner vie à votre jardin, abandonné par son ancien propriétaire en friche. Et votre bande dessinée de 114 pages, éditée chez Dargo, qui a pour titre L'Oasis, nous explique comment vous avez fait.
Très, très simplement, avec le temps, l'histoire s'étale sur les 10 années de notre installation. Alors quand on est arrivé, oui, plus qu'une friche, c'était un jardin finalement extrêmement classique. Juste une pelouse, deux arbres, des haies tristes et aucune vie. Or moi, à la base, j'aime la nature, j'aime le fourmillement, j'aime les insectes, le chant des oiseaux. Et je trouvais ça dommage quand même qu'en s'installant à la campagne, on n'ait pas accès à un petit peu de vie à laquelle ce jardin nous donnait droit a priori. Donc eh bien, au fur et à mesure, divers travaux d'arrachage de haies de cotonéasters, tout est venu comme ça progressivement. On s'intéressait à ce qui poussait dans la nature, à côté, à ce qui sortait tout seul dans le jardin, les graines que les oiseaux avaient semées. Et au fur et à mesure, ce que l'album raconte aussi, c'est la naissance d'une biodiversité qui n'existait pas à la base dans ce triste jardin une pelouse. C'est quasiment comme de la monoculture en fin de compte. Et en laissant pousser des choses, ça reste un jardin. Hein, ce n'est pas une friche. Hein, on a toujours de quoi. Enfin, les enfants ont de quoi jouer, une balançoire. En remettant des poules dans le poulailler, en rachetant le potager d'à côté, etc. Au fur et à mesure, on a vu la vie revenir sous toutes ses formes, et des formes dont on n'aura jamais fini de faire le tour. C'est inouï. Je continue de découvrir des papillons que j'avais pas encore vus, des criquets, des punaises. C'est vraiment formidable.
Mais au départ, ce n'est pas un choix d'écolo qui rompt avec la ville. C'est pas le retour à la terre comme on le faisait dans les années 70, ni non plus ce choix assez radical de dire nous allons sauver la nature, nous allons quitter les villes polluées. Vous, c'est juste le plaisir de retrouver un peu des sensations.
Rien de radical, en effet. Oui, vraiment. À un moment, on se dit stop, la vie en appartement. Bon, on a un peu besoin de peut-être d'espace, de verdure. Alors progressivement, comme ça, on est allé chercher la nature où elle était, la verdure où elle était. Et en effet, il n'y a pas eu de grande doctrine où on n'a pas lu un livre qui nous a mis sur telle ou telle voie. C'est un besoin progressif et qu'on a accompagnée comme ça. On allait la chercher là où elle se trouvait.
Et en revanche, cette bande dessinée, le choix de faire cette bande dessinée et de la publier, l'Oasis donc, chez Dargo, ça, en revanche, c'est un choix politique. Parce que vous l'expliquez très bien, que vous avez décidé de partager cette expérience un jour que vous avez écouté la radio, c'était France Inter, et que vous avez entendu une très mauvaise nouvelle.
Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement.
Aujourd'hui.
Vous êtes sérieux là ?
Oui, je suis sérieux.
C'était il y a tout pile 2 ans.
C'est vrai.
Vous étiez chez vous. Et cette annonce qui nous a effectivement tous bouleversés, ça a été le déclic pour vous, Simon Hureau, pour dire, bon, tout ne doit pas être défaitiste. Mon expérience, à une échelle très petite et très personnelle, ce que j'ai fait avec mon jardin, je peux le raconter, c'est peut-être un message d'espoir. C'est né de ce sentiment, l'Oasis.
Tout à fait, exactement. C'est vrai que finalement, c'est ce qu'on vient d'entendre, cette annonce de Nicolas Hulot à la radio, c'était vraiment le déclic. Mais j'avais quelque chose en germe depuis des années déjà. Je cherchais par le biais de la fiction à parler de la nature, de ce que je ressentais, de ce que je découvrais au fur et à mesure que je m'intéressais au jardin. Parce que forcément, quand on...
Sans avoir la main verte au début, hein.
Pas spécialement, mais mes parents avaient un petit jardin et j'aimais bien y faire 2-3 petites choses de temps en temps, mais... Mais voilà, je me suis jamais dit, en effet, retour à la terre, je vais devenir agriculteur ou quoi que ce soit. C'est juste un jardin de loisirs. Mais bon, j'avais vraiment envie de partager tout ce que je découvrais. Et en l'occurrence, que ben, si on y va doucement, avec le plus de bon sens possible, etc., on peut faire revenir la biodiversité dont Nicolas Hulot parlait, en disant qu'elle fond comme neige au soleil, ce qui est vrai, on ne peut que le constater. Les espèces disparaissent, Le nombre d'animaux aussi se réduit comme peau de chagrin. Bien moi, à ma petite échelle, dans mon petit jardin, je constatais que en faisant des petites choses comme ça avec ses mains et avec le temps, on arrivait à faire revenir les chardonnerets, les roitelets, les vers de terre qui avaient un peu déserté le terrain. Et toute cette vie en appelant encore d'autres espèces encore, et c'est jamais terminé.
Gilles Clément signe la préface de votre bande dessinée. Gilles Clément, bien sûr, qui est jardinier. Je pense qu'il tient aussi à ce qu'on précise qu'il est jardinier avant de dire que c'est un botaniste célèbre. Il est avec nous au téléphone depuis la Creuse. Bonjour Gilles Clément.
Bonjour.
Alors vous, quand vous avez eu ce témoignage, cette bande dessinée de Simon Hureau, ce que vous dites et qui nous interpelle, c'est de dire qu'il n'y a pas d'âge pour se lancer dans cette aventure.
Non, il n'y a pas d'âge pour se lancer dans cette aventure. Et puis cet ouvrage de Simon Hureau, ça donne effectivement de l'espoir, vous l'avez dit tout à l'heure, mais il y a une vertu pédagogique aussi.
Absolument.
On comprend vraiment bien qu'en protégeant une espèce qui nous intéresse, on en protège en définitive beaucoup plus qu'une seule, parce que tout est lié. Et ça, ça apparaît de façon très très lisible dans cet ouvrage. Ça m'a beaucoup plu et paru extrêmement important à une époque où ce qu'on peut appeler l'enseignement sur la nature, enfin ce qu'on appelait autrefois les sciences naturelles, disons sur le vivant, n'existe pratiquement plus dans aucune espèce d'école. Même la SVT aujourd'hui s'est un peu mis à la poubelle. Donc c'est vraiment, il y a besoin de revenir vers la connaissance, savoir où nous habitons. Comment on fait pour ne pas tuer, pour ne moi, on m'a appris, hein, je suis ingénieur horticole, il paraît. Ouais, mais bon, on nous disait des choses très importantes sur la connaissance, sur le savoir, la science et tout. Mais quand il s'agissait d'entretenir et de cultiver pour une production, il fallait garder une espèce et tuer toutes les autres. Mais ça veut dire quoi, ça? Oui, c'est ce qui se passe avec les betteraves rouges aujourd'hui, où on relance les nicotinoïdes, c'est un crime. Rien d'autre.
Vous dites
là,
que
dans ce livre, on voit bien que c'est une approche qui se fait, comme l'a dit tout à l'heure Simon Hureau, pas de façon idéologique, avec une prise de position, c'est juste une logique de bon sens.
Et vous dites aussi, Gilles Clément, que le sujet de l'Oasis, la bande dessinée de Simon Hureau, n'est pas l'extase du jardin bien dessiné, l'agrément bobo oui. des week-ends à la campagne, le décor d'un printemps fleuri vu depuis la véranda où l'on sert un thé vert hyper bio. Et ce n'est pas non plus d'ailleurs un projet politique, bien que tout soit présent pour le faire entendre à demi-mot. Alors, oui. c'est politique ou pas politique ?
Ben, ça l'est, parce que quand on réagit au bon sens, au constat, on finit par devenir politique en prenant, sans le vouloir, ça a été mon histoire personnelle, simplement en prenant des décisions qui sont celles que l'on admet, que l'on comprend pour pouvoir maintenir justement la vie. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que pour faire ça, on s'oppose à des dispositions qui sont celles du marché ou des lois politiques actuelles et qui ne vont absolument pas dans ce sens-là. Bon, mais on n'y peut rien, c'est-à-dire on devient politique sans le vouloir. Mais ça l'est, effectivement.
Merci beaucoup, Gilles Clément.
Le réveil culturel, Tufik Hakem sur France Culture.
La maison près de la fontaine, couverte de vignes vierges et de toiles d'araignée, sentez la confiture et le désordre et l'obscurité. Autour, il y avait le silence, les guêpes et les nids des oiseaux. On allait à la pêche aux écrevisses avec monsieur. Se baigner tout noir avec les petites filles et les canards.
L'Oasis de Simon Hureau, édité chez Dargaud, cette petite jeunesse d'un jardin bio. Divers, c'est aussi une manière de représenter la nature, de la dessiner. Mais alors, comment dessiner les plantes, les arbres, les feuillages, la végétation? Comment bien montrer la différence entre les arbres? Ou suggérer la silhouette d'un cerisier, l'ombre d'un figuier, des insectes, des légumes?
Ça, c'est un vrai défi. C'est vraiment compliqué à dessiner le jardin. Je m'en suis rendu compte justement en me lançant là-dedans.
Vous dites un vrai défi? Pour oui. les lecteurs, c'est un vrai plaisir.
Alors, tant mieux.
Parce qu'on retrouve un peu de notre enfance, de tous ces livres d'histoire naturelle. Il y a aussi ce côté-là dans votre travail, Simon Hureau. Et en plus, il y a cette histoire, votre histoire, parce que on est en immersion, on est avec vous pendant 10 ans pour voir enfin à quoi va ressembler ce jardin.
Oui, alors c'est vrai que j'avoue, j'ai un faible pour les livres d'histoire naturelle, les catalogues, les inventaires, les guides et toutes ces planches de sciences naturelles ou d'insectes. Je me suis fait un petit peu plaisir justement en répertoriant tout ce que je trouvais, tout ce qui finissait par arriver dans ce jardin au fur et à mesure. Et, mais alors c'est vrai, après j'ai un petit peu galéré aussi parce que le vert est une couleur que j'avais beaucoup de mal à utiliser en dessin. Et là je me suis dit non, pas le choix, si on veut dessiner du jardin, va falloir s'y mettre. À la verdure, et pareil pour différencier les différents plans d'arbres, de plantes, pour faire comprendre de loin que cet arbre c'est un sureau, puis derrière c'est un cerisier, sans rentrer dans le détail de chaque feuille. C'est pas évident, mais...
Comment vous avez travaillé? C'est de l'observation? C'est beaucoup de photos? C'est...
Alors d'abord, je travaille à la maison, donc si j'avais un doute, il suffisait que je fasse 3 pas et j'étais dans le jardin, c'était pratique. Donc,
ouais.
J'ai fait des croquis, je suis sorti,
À propos de doute, c'était plutôt pour les insectes que vous connaissiez pas, qu'il fallait essayer de trouver leur nom scientifique.
Oui, alors à la base, j'aime quand même beaucoup les insectes, j'ai quand même quelques points de repère dans les familles et tout. Mais après, c'est un vrai jeu, justement. C'est formidable. C'est un terrain de jeu extraordinaire, le jardin. Si on sort et que tout d'un coup, on tombe sur un coléoptère qu'on n'a jamais vu, j'ai qu'une envie, en rentrant dans la maison, c'est d'aller le chercher dans un guide pour faire connaissance véritablement, en fin de compte. C'est infini. On découvre sans cesse des nouveaux habitants dans son propre jardin, qui sont aussi habitants du jardin qu'on peut l'être nous-mêmes. Et c'est ça que j'aime bien finalement, c'est un espace partagé. C'est un équilibre entre, tant qu'ils viennent pas tout dévaster, comme par exemple un peu la pyrale du buis, qu'il faut peut-être essayer de contrôler un petit peu, ou certains envahisseurs, mais globalement, c'est une histoire d'équilibre et de cohabitation.
Remettre en question toutes les idées reçues, ça a été un peu votre objectif, Simon Hureau, en dessinant cette nature, l'oasis. Par exemple, le fait de rappeler qu'un chat peut faire beaucoup plus de dégâts qu'une chauve-souris.
C'est mes observations à moi. En fin de compte, j'aime les chats, j'en ai toujours eu. On en avait deux à cette époque-là. Mais j'étais dépité de voir combien, chaque matin, je pouvais avoir un cadavre de rouge-gorge ou de campagnole sur le paillasson. Et c'est pas de ça que j'avais envie. J'avais pas envie d'un jardin qui se dépeuple tous les jours à cause de mon animal de compagnie. Alors, ça parle aussi de ce problème qu'on peut avoir, cette schizophrénie à aimer les chats et le jardin et sa faune d'un autre côté. Donc, je donne pas de solution, hein. C'est pas un guide. Je fais part de mes questions, mes doutes, mes réflexions, mes observations et mes avancées dans cette rencontre avec le jardin.
Tout ça avec un crayon?
Oui, tout à fait. Oui, crayon, papier, aquarelle, voilà, des matériaux simples, basiques, mais je voulais que pour parler de jardin, il fallait du tangible, du concret. De toute façon, je maîtrise pas les techniques par ordinateur, la palette graphique ou autre, mais ça m'allait très bien comme ça. D'ailleurs, je fais exprès de prendre un crayon noir, un peu râpeux, et puis un papier qui avait du grain pour que ça s'exprime.
Le jardin est là, et le titre de la bande dessinée rappelle que ça finit bien, ça s'appelle l'Oasis.
Oui, ça ne finit pas d'ailleurs. Ça monte vers quelque chose et ça ne s'arrête pas, ça va continuer. Et en fait, oui, je me suis rendu compte en finissant l'album que, ben oui, il y avait quand même un constat plutôt positif, que on peut être tout seul avec une surface de jardin, quelle qu'elle soit. Ça peut être un balcon aussi bien que plusieurs hectares et on peut arriver à des choses qui vont dans le sens de la vie. À condition, bien sûr, d'accepter que, ben, de temps en temps, le hanneton mange 2-3 racines, et que le cétoine mange les pétales de la rose. Mais en même temps, moi je trouve une rose peut-être encore plus belle avec ses coléoptères verts brillants à l'intérieur, en train de manger les pétales, que la fleur toute propre, comme si on venait de l'acheter chez le fleuriste.
Le réveil culturel.
Alors vous racontez tout ça, vos essais, vos découvertes, vos déconvenues aussi, et tout ça très bien représenté, parce que quand même l'idée c'est de représenter les insectes, les animaux, la végétation, on l'a dit ça Simon Hureau. Est-ce que avec le recul, vous avez l'impression d'avoir fait le bon choix en quittant la ville, par exemple?
Autant je peux avoir des doutes sur certains points, là j'en ai pas trop. Non, oui bien sûr, ouais. Oui, j'ai aucun regret pour la ville, et chaque fois que j'ai l'occasion d'aller en ville, à Paris ou que ce soit, je suis très content de rentrer dans mon petit coin de province avec le calme et les stridulations dans le jardin. Oui, non, ça c'est certain.
Cette expérience entraîne chez vous cette envie de vous engager pour le combat écologique. Parce que ce qui est bien dans cette bande dessinée, c'est que vous ne mettez pas le discours politique militant en avant, jamais.
Non, de fait, si ça parle d'écologie, c'est par hasard ou sans le dire. Je suppose que cette démarche va dans le sens de l'écologie, mais je suis engagé dans aucun mouvement en particulier. En fait, je raconte juste le parcours de quelqu'un qui part de zéro et qui va dans le sens de la vie et de la biodiversité. Mais après, si ça peut déboucher sur des aventures estampillées écologiques, pourquoi pas? Moi, je suis plutôt ouvert à cette continuité-là, oui, bien sûr. Mais pour l'instant, je ne sais pas encore. Pour l'instant, je fais mon jardin en amateur.
Suivant les saisons.
Voilà, suivant les saisons.
Quelle est votre saison préférée, Simon Hureau?
C'est pas évident. Il faut avouer que quand on a un jardin, le printemps, c'est quand même vraiment extraordinaire. De voir que tout rebourgeonne, tout se remet à fleurir, toutes les nouvelles odeurs qui ressortent qu'on avait oubliées. J'ai un petit faible pour l'automne aussi. Ces lumières, ces couleurs, tout ce qui s'y passe. Ouais, voilà, j'aurais tendance à dire le printemps et l'automne.
Et moi, j'aurais tendance à vous dire, qu'est-ce que j'aimerais faire comme vous? C'est-à-dire...
Ah, mais formidable.
Ouais, mais sauf qu'il faut vivre dans la vie.
Ça prend du temps, forcément. Et même ce jardin est totalement imparfait. Il faudrait y passer beaucoup plus de temps pour qu'il ressemble à nos fantasmes les plus précis.
Passer beaucoup plus de temps, ça veut dire ne pas avoir suffisamment de temps pour aller travailler et gagner sa vie.
Voilà. Bah,
comment ça se passe concrètement pour vous?
Alors concrètement, déjà, je travaille à la maison.
Mm-hmm. Vous êtes auteur de bande dessinée.
Voilà, donc déjà, ça me permet de ne pas perdre de temps dans les moyens de transport. Donc c'est un temps que je peux consacrer au jardin. Non, mais je m'organise comme ça vient. Alors évidemment, le fait de travailler, de ne pas pouvoir être tout le temps au jardin, ça fait que parfois on passe un petit peu des saisons, on plante des choses et puis on oublie de récolter. Mais bon, on a quelques dépits comme ça, mais c'est contrebalancé par tous les plaisirs qu'on peut avoir par ailleurs. Mais même simplement, parfois, juste sortir dans le jardin, prendre l'air, aller nourrir les poules qui sont au fond, ça tombe bien, il y a tout le jardin à traverser pour aller les nourrir. Il y a toujours un peu de temps à consacrer au jardin. Et d'ailleurs, c'est amusant pour moi, profiter du jardin, c'est pas aller m'asseoir dans une chaise longue, c'est aller y faire des choses. Ça n'a jamais été une corvée, ça n'a jamais été un travail. Je vais pas jardiner, je sors, c'est tout. Puis si au fur et à mesure de l'inspiration, tout d'un coup, je me rends compte qu'il y a ceci ou cela à faire, un peu de taille ou quoi que ce soit d'autre, je vais le faire naturellement, sans considérer que c'est une corvée, que ça va me prendre du temps. C'est vrai que quand on est au jardin, en général, je prends pas l'heure, je la vois pas passer. Mais du coup, quand je rentre à la maison après, j'essaie de rattraper ça. Mais je regrette jamais d'avoir passé du temps au jardin.
10 ans plus tard, est-ce que vous êtes autant surpris par la nature qu'au début, quand vous vous êtes mis à vous occuper de ce jardin, Simon Hureau?
Mais toujours, c'est ça qui est formidable. Je continue de faire des découvertes tout le temps. Et plus le temps passe, à la limite, plus je me rends compte de ce qui me reste à découvrir et à quel point je n'ai fait qu'un pas dans le milieu de la connaissance de mon propre jardin. C'est infini. Y compris, après, simplement en termes purs de jardinage, je peux aller encore plus loin, en effet. Il faudrait que je lise des précis de permaculture et tout, pour découvrir encore des choses. Et puis, même des espèces animales ou végétales, j'ai jamais fini d'en apprendre, d'en découvrir de nouvelles. Il y a des plantes qui arrivent toutes seules, on ne sait pas comment elles font, mais j'ai redécouvert l'orchis book, qui est une plante que j'aime énormément et qui est arrivée toute seule cette année dans notre jardin. Ou certains papillons que j'avais pas encore observés, je suis ravi de les accueillir.
Et de les dessiner, apparemment.
Et oui, j'aime beaucoup les dessiner. Oui.
C'est dans cette bande dessinée que je vous recommande vivement l'Oasis de Simon Hureau. Et c'est édité chez Dargo. Merci beaucoup d'avoir quitté votre jardin pour venir en ville à la radio nous en parler ce matin.
C'était un plaisir. Merci.
Le réveil culturel. Tous les matins de la semaine, tôt à la radio ou quand on veut sur franceculture.fr.
Merci de vous réveiller avec les petits matins de France Culture. Nous, on se retrouve lundi, et comme tous les lundis, on parlera de littérature. Mon invité lundi prochain est Toriane Jeancourt, que vous connaissez bien si vous êtes un habitué ou une habituée du réveil culturel. Allez, bonne semaine, bonne fin de semaine, et à lundi.
France Culture, l'esprit d'ouverture. Un paysage d'apocalypse, des femmes aux cheveux bleus, des guerriers fourbus, des animaux solitaires. Depuis les années 70, le dessinateur Enki Bilal annonce, avec quelques coups d'avance, la fin du communisme, le terrorisme religieux, le transhumanisme et la dépendance au numérique.
Je reproduis un cheval dessiné par ma mère, qui dessinait bien aussi. Et ce cheval est un peu un point de départ de mon envie de dessin et de ma passion du dessin.
À voix nue, Enki Bilal par Pierre Chassagneux, cette semaine à 20h sur France Culture et sur franceculture.fr. Pendant le confinement, une vidéo de 1972 a ressurgi sur les réseaux sociaux. Élégante, fume-cigarette à la main, l'actrice Delphine Seyrig y pulvérise la domination masculine et compare le mariage à de la prostitution. Née à Beyrouth, inoubliable fée des lilas dans le film Podane, Delphine Seyrig paie de sa carrière son engagement féministe, notamment aux côtés de l'avocate Gisèle Halimi, récemment disparue. Toute une vie, Delphine Seyrig, par Lou Quevauvillier et Lila Bozès, ce samedi à 15h sur France Culture et sur franceculture.fr.
C'est le grand jour. Sarah va retrouver sa grand-mère. Mais pour rire, se parler et profiter l'une de l'autre, elles vont devoir respecter une règle simple. Quand on aime ses proches, on ne s'approche pas trop.
Le virus est toujours là. Et 9 personnes sur 10 qui décèdent de la Covid-19 ont plus de 65 ans. Pour les personnes à risque, il est recommandé de limiter au maximum les contacts et de continuer à appliquer les mesures barrières. Ensemble, restons prudents.
Besoin d'aide ? 0800 130 000. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Un quart de l'enveloppe consacrée à la culture ira au spectacle vivant. Un secteur qu'il faut aider en pleine crise sanitaire. Le gouvernement en convient et donne des gages aux professionnels. Ils sont plutôt satisfaits, vous l'entendrez. À l'heure où les Parisiens et toute une partie des Franciliens doivent sortir masqués tout à l'heure à partir de 8h, nous nous sommes intéressés aux conditions de reprise dans les universités. Le protocole a été esquissé hier, compte rendu dans ce journal. Nous irons aussi en Afrique du Sud, où des affrontements ont éclaté ces deux derniers jours près de Johannesburg. La police est accusée de s'en prendre à la communauté métisse. Un adolescent y est mort mercredi. Nous serons sur place. Et puis nous analyserons la stratégie du président turc Erdogan qui poursuit ses recherches gazières en mer Méditerranée orientale au grand dam de la Grèce, soutenue par une partie de l'Union européenne. L'activité partielle est prolongée pour les professionnels du spectacle jusqu'à la fin de l'année. Le Premier ministre Jean Castex l'annonçait hier aux professionnels. Au ministère de la Culture, rue de Valois, il a détaillé l'enveloppe qui leur sera allouée. 2 milliards d'euros pour la culture au total, dont 432 millions, près d'un quart pour le spectacle vivant. Parmi ces fonds débloqués, 10 millions d'euros seront consacrés à la relance pour les théâtres privés. De quoi soulager Loïc Bonnet, le directeur du théâtre à l'Ouest, à Rouen. Il préside aussi l'Association des théâtres privés en région.
Forcément, quand on nous annonce que le fonds d'urgence est abondé de 10 millions supplémentaires, oui, c'est très bien, puisque aujourd'hui, on a des lieux qui vont fermer, hein, très clairement, si on ne les aide pas très vite. Il y a des lieux, il faut bien s'en rendre compte, il y a des lieux qui, depuis fin mai, n'ont pas touché d'argent, rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils n'ont pas de trésorerie ou très peu, ils sont en négatif sur leur compte en banque et ils doivent leur loyer et tout ce qui va avec. Et le retour du public est très compliqué, on ne va pas se mentir. C'est pas parce qu'on nous donne 100% de notre jauge dans les zones vertes, hein, qu'on va avoir 100% de notre jauge remplie comme ça d'un coup. Et on a demandé, et Madame la Ministre nous a assuré qu'elle allait soutenir et aider à ce que les gens reviennent. En fait, c'est qu'une question de confiance aujourd'hui. De tous ceux qui ont rouvert, il n'y a pas eu de cluster dans nos lieux. Et pourtant, on portait pas de masque. Alors si en plus on rajoute le masque, c'est encore plus sécure de venir au théâtre.
C'était Loïc Bonnel, le directeur du théâtre à l'Ouest à Rouen, qui veut y croire, interrogé rue de Valois hier par Thomas Larabi. Ce secteur-là a aussi été très affaibli par la crise sanitaire. La presse écrite va bénéficier de 483 millions d'euros sur 2 ans. Une partie de cette enveloppe a déjà été votée. L'État veut notamment accompagner les transitions écologiques et numériques de ce secteur. Et la crise n'est pas finie. Sur le plan sanitaire, maintenant, le virus gagne du terrain, nous vous le disons de jour en jour. 21 départements sont désormais en zone rouge, donnant plus de pouvoir aux préfets de ces départements. À Paris et en Petite Couronne, notez aussi que le port du masque va devenir obligatoire à partir de ce matin, 8h. Le gouvernement dit vouloir tout faire pour éviter un reconfinement généralisé, dévastateur pour l'économie. Ces dernières 24 heures en France, plus de 6000 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés. C'est un nouveau record depuis le printemps. Dans ce contexte difficile, la rentrée se prépare avec des consignes au compte-gouttes. Rien encore ou presque pour les crèches et pour les maternelles. Un masque obligatoire, vous le savez, au collège et au lycée, même dans la cour de récréation. Et puis pour les étudiants, dont les premières rentrées auront lieu la semaine prochaine, ce sera aussi masque obligatoire pour tous. La conférence des présidents d'université s'exprimait justement sur le sujet hier, précisant tous les autres aménagements à l'université. Marie Maheu.
Le masque est obligatoire, oui, mais les autres aménagements à l'université sont nombreux. Marquage au sol pour définir un sens de circulation, une place sur deux laissée vide dans les salles quand c'est possible, des horaires de cours décalés. Tout est fait pour éviter le brassage d'un trop grand nombre d'étudiants. Côté cours, la partie à distance reste à l'appréciation des universités et surtout des professeurs en fonction de leur matière et de la taille de leur salle, sauf évidemment pour les élèves souffrant de pathologies qui les rendent particulièrement vulnérables au virus. Un protocole sanitaire et une réorganisation de la vie à l'université qui pèsent sur son budget. Il représente généralement 1 à 2% de son budget total. Quelques millions d'euros, par exemple, pour l'université de Reims. Première dépense à l'achat, le matériel informatique pour enregistrer les cours à distance. Sur le long terme, c'est aussi le nettoyage renforcé des locaux, mais aussi l'achat de gel et de masques qui va peser sur les dépenses des universités. Il promet de terrasser le Covid-19, ce sont ses mots, avec un vaccin trouvé cette année. Vaste promesse du président Donald Trump cette nuit, qui a officiellement accepté l'investiture de son parti républicain. En clôture de la convention nationale, il s'est présenté comme un rempart face au démocrate Joe Biden, qu'il qualifie de fossoyeur de la grandeur de l'Amérique. Personne ne sera en sécurité dans l'Amérique de Biden, voilà ce qu'a lancé Donald Trump cette nuit, dans un contexte toutefois de superposition de crises et de tensions raciale aux États-Unis. Car effectivement, la colère antiraciste gronde toujours dans le pays. Les blessures infligées à l'afro-américain Jacob Blake dimanche dernier par un policier blanc ont rallumé les braises. Dans l'après-midi aujourd'hui, une grande marche est prévue à Washington en l'honneur de Jacob Blake et contre toutes les violences policières. Des violences contre une communauté, c'est aussi ce qui pousse dans la rue des habitants en Afrique du Sud, près de Johannesburg. Manifestations violente dans le township métis d'Eldorado Park. Au moins 3 policiers et plusieurs manifestants ont été blessés depuis mercredi. La colère a en fait éclaté après la mort d'un adolescent de 16 ans atteint de trisomie 21, supposément tué par les forces de l'ordre lors d'une patrouille. Les habitants de ce township ont attaqué un poste de police pour protester. Claire Bargelès nous raconte.
La route principale est bloquée par des restes de pneus brûlés. Toute la journée, les jets de pierre ont fait face aux balles en caoutchouc. Madi Tamin, l'un des représentants de la communauté, comprend la colère des manifestants.
Un enfant a été tué hier soir. C'était un enfant handicapé. C'est ce qui nous met le plus en colère. Et le policier qui lui a tiré dessus est bien connu au sein de notre communauté. C'est pour ça que suite à cette affaire, vous voyez tout le monde se soulever.
Nathaniel Julius, 16 ans, est décédé à l'hôpital. Selon sa famille, il était sorti pour acheter des biscuits mercredi soir. La police lui aurait tiré dessus lors d'une patrouille alors qu'il était incapable de répondre aux questions posées. Odile ne veut pas que l'affaire reste impunie.
Je suis choquée et apparemment ce ne serait pas la première fois que la police n'est pas poursuivie après la mort d'un innocent. Normalement, on doit avoir peur des gangsters, mais maintenant, on doit avoir peur de ceux qui sont censés nous protéger. Alors comment on fait ? On demande simplement justice.
Pour Kyle, il est important que sa communauté métisse soit aussi reconnue comme victime des violences policières qui touchent le pays.
Nous, les quartiers métis, nous sommes délaissés. S'ils peuvent faire ça à ce jeune homme, qu'est-ce qu'ils vont nous faire à nous ? Ils auront le droit de nous tirer dessus comme ça ? Non. Il faut qu'on mette un terme à tout ça aujourd'hui.
Les autorités appellent les habitants à laisser l'enquête de Lipid, la police des polices sud-africaines, suivre son cours.
C'était Claire Bargelès, notre correspondante en Afrique du Sud. Jusqu'où ira l'escalade entre la Turquie et la Grèce en Méditerranée orientale ? Hier, Ankara a annoncé la poursuite de ses recherches gazières dans la région et des exercices de tir au nord de Chypre. C'est un nouvel épisode dans la crise qui a débuté il y a plus de 2 semaines maintenant. La France a déjà apporté son soutien sans ambiguïté à la Grèce, mais l'Allemagne refuse de prendre parti. C'est en fait toute l'Union européenne qui est embarquée dans cette affaire et c'est bien ce qu'espérait le président turc Recep Tayyip Erdogan. Nous en parlions hier soir dans le journal de 22h de France Culture avec notre invitée Dorothée Schmidt. Elle est responsable du programme Turquie contemporaine et Moyen-Orient à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales.
Ankara veut démontrer son statut de puissance en Méditerranée orientale. Montrer qu'elle a voix au chapitre sur le partage des ressources gazières qui ont été découvertes dans la région. Manifestement, dans des moments de faiblesse de l'Union européenne, c'est une manière assez efficace de se faire valoir que de pousser sur le plan militaire dans une région dont on sait qu'elle est une poudrière pour toutes sortes de raisons, qu'elle est déjà très conflictuelle, qu'elle est travaillée par les flots de réfugiés venant de Syrie. Les Turcs, très clairement, comptent sur une forme de désorganisation européenne.
Ça veut dire que le président turc Erdogan se sent en position de force vis-à-vis des Occidentaux ?
Le président turc se sent en position de force relative à partir du moment où il arrive à semer la zizanie dans l'Union européenne. Il y a notamment cette impression que la France est partie bille en tête pour affronter la Turquie, un peu comme ça s'est passé sur la question libyenne il y a quelques semaines. Mais que finalement, elle n'a pas forcément le soutien absolument sans condition de tous ses partenaires. Et de ce point de vue-là, la présidence allemande de l'Union européenne a plutôt pris le parti de la diplomatie pour essayer d'éviter précisément une escalade militaire. Mais je pense pas que les Turcs souhaitent un affrontement. Je crois que simplement, ils poussent, ils chauffent la région à son maximum pour essayer de se faire entendre.
C'était Dorothée Schmitt de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, interrogée par Stanislas Vazak. Toujours sur la Turquie, sachez que ce soir, entre 17 et 18 heures, le grand reportage de la rédaction sera consacré à la Turquie et notamment à Sainte-Sophie, instrument de l'islamo-nationalisme. Un grand reportage signé Benjamin Illy, retrouvé donc à partir de 17 heures. Les averses vont traverser la France métropolitaine ce vendredi, du sud-ouest jusqu'aux frontières allemandes, des pluies parfois orageuses. Ce ciel chargé laissera place toutefois à quelques belles éclaircies en fin de journée. Ce matin, comptez 15 degrés à Brest, 16 à Lille et Paris, 18 degrés à Besançon, 19 à Paris, 25 à Marseille. 6h40, tout pile sur France Culture.
Oui, bravo.
Jacques.
Bonjour.
Bonjour. Vous nous avez rejoint pour votre journal des idées. Je parlais des températures. Elles sont un peu plus extrêmes là où vous nous emmenez ce matin, dans les déserts. Un bon poste d'observation du réchauffement climatique, qu'il soit chaud ou froid, Jacques.
Et oui, Clara, car si l'on considère les précipitations, le plus grand désert du monde n'est pas le Sahara, mais l'Antarctique. C'est ce que rappelle le paléoclimatologue Gilles Rammstein dans la dernière livraison de la revue Relief, consacrée au désert. L'Antarctique, l'Arctique, le Groenland sont des déserts froids avec leurs particularités climatiques. Or, les déserts froids sont en voie de réduction, tandis que la plupart des déserts chauds ont commencé leur processus d'extension. L'accroissement des zones désertifiées chaudes est de l'ordre de 9% entre les années 1980 et 2000, et le Sahara a déjà gagné près de 10% de superficie au détriment du Sahel, déjà très affecté par la réduction des surfaces arables. Ce processus rapide contraste avec le temps long de l'histoire évolutive de la planète. Durant des milliards d'années, les terres émergées furent, au sens premier du terme, des déserts, c'est-à-dire des terres exemptes de vie. Vu de l'espace, la Terre apparaissait alors bleue et ocre, et le vert fut la dernière couleur à s'y répandre. La vie était confinée dans les océans et ce n'est qu'au Dévonien, entre moins 416 et moins 359 millions d'années, que de petites plantes se sont hissées hors de l'eau, des rivières et puis des fougères géantes qui ont amorcé le processus de la photosynthèse et de la production d'oxygène qui a constitué notre atmosphère. C'est ce qui fait que, jusqu'à une période encore récente, entre 9000 et 6000 ans, le Sahara était encore vert, habité par une faune et une flore variées, sillonnées par des rivières et parsemées de lacs. Même si les périodes de sécheresse et d'abondance, de jaune et de vert, s'étaient succédées sur des millions d'années en fonction des systèmes de mousson. Le désert a quelque chose de fascinant. On s'y trouve littéralement et sans intermédiaire entre ciel et terre. C'est pourquoi il a été le havre de mystiques pour les trois religions monothéistes. Les premiers explorateurs géographes, depuis Hérodote, n'ont pas manqué d'y conduire des expéditions. Le grand voyageur arabe Ibn Battuta, au XIVe siècle, s'est rendu à la Mecque, puis en Asie, parcourant plus de 50 000 kilomètres en sillonnant notamment les déserts et en décrivant les peuples rencontrés, contribuant ainsi avec d'autres à la connaissance géographique et ethnologique des régions désertiques. Plus près de nous, le désert s'écrira aussi au féminin. Bruno Doucet évoque ces épopées de passionnariat des sables qui, avant Théodore Monod, ont mené de singulières explorations à la frontière entre soi et le monde. Isabelle Eberhard, qui se noiera dans les eaux d'un oued en cru au beau milieu du désert, a des mots limpides sur les visions et les sentiments engendrés par ces régions lépreuses où toutes les chimies secrètes de la terre s'étalent au grand soleil. Et cependant, je cite, « ils ont leur splendeur et leur magie, les vallons de sel-gem, les lacs transparents où se jouent les mirages, où se mirent les cités chimériques, les bois de palmiers et les mosquées de rêve, où viennent s'abreuver les troupeaux innombrables qui ne sont que de blanches vapeurs surchauffées par le soleil, pays d'illusions, de reflets, de visions et de fantômes, souvenirs encore intacts des origines océaniques de la planète. » Où plaies de lentes désagrégations, lèpre, gangrènes prématurées éclatant déjà à la face de la terre, qui sait ? Bernard Guest brosse le portrait du prodigieux Alexandre von Humboldt, surnommé le Shakespeare de la science, ou encore par Barbet d'Orvilly, l'Aristote des temps modernes. Les éditions Le Pommier publient dans une nouvelle collection consacrée aux pionniers de l'écologie une partie de ces tableaux de la nature sur les steppes et déserts. Goethe disait de lui que sa compagnie excite l'esprit. Une semaine de lecture, vous en apprendrez moins que lui en une heure, disait-il. Géologie, botanique, zoologie, astronomie, climatologie, géographie, histoire et même préhistoire. Le savant explorateur qui inspira Darwin, Henry David Thoreau ou Walt Whitman avait une vision holistique de la nature comme un tout. Gilles Fumet et Jérôme Gaillardet parlent dans leur préface de pages touffues et envoûtantes, écrites avec rigueur et émotion. Alors que le paysage reste à son époque marqué par le sentimentalisme romantique, il s'emploie à en faire le déclenchement de toutes les fonctions cognitives sur le monde, le premier stade du processus de la connaissance. Le germanique amoureux de la France et fidèle à ses lumières a notamment arpenté le Sahara, tout comme le désert d'Atacama ou les steppes d'Asie centrale. Il note, entre mille autres observations, que le selgem, l'une des richesses du désert africain, peut servir à la construction des maisons, on le sait depuis Hérodote, ajoute-t-il. Et sur les chameaux, les vaisseaux du désert, il rappelle leur pérégrination jusque sur les bords du Danube avec les Goths. h 45 sur France Culture pour quelques secondes encore. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Jacques Munier, bonjour à tous.
C'est l'heure des enjeux internationaux sommaires aujourd'hui. La Thaïlande avec un mouvement de contestation d'une ampleur inédite contre le régime.
Oui, on lit beaucoup que cette fronde ressemble à celle qui a lieu à Hong Kong. Alors, on se doute bien que les manifestants thaïlandais observent en effet ce qu'il se passe à 1700 km au nord-est de Bangkok. Et c'est vrai que les jeunes, les étudiants sont dans les deux cas les instigateurs et les sentinelles de la contestation. Mais la comparaison s'arrête là. En Thaïlande, c'est bien la monarchie qui est mise en cause, en tout cas telle que pratiquée par le roi Ramadi. C'est aussi tout un système de valeurs qui est contesté. Alors il est 11h46 à Bangkok où vous êtes, Eugénie Mériot, bonjour.
Bonjour à vous.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheuse à l'Université nationale de Singapour. Vous avez fait paraître Idées reçues sur la Thaïlande aux éditions du Cavalier Bleu. Et donc vous êtes en ce moment en Thaïlande. Alors avant de parler des revendications contre la monarchie, qu'est-ce qu'on peut dire de la monarchie thaïlandaise en tant que telle? La monarchie absolue a été abolie officiellement il y a longtemps, en 1932. Mais on peut pas dire non plus que ce soit une monarchie parlementaire. Donc quel genre de monarchie est-ce?
Oui, merci beaucoup. C'est en effet une monarchie qu'on pourrait appeler une monarchie limitée. En fait, ça ressemble à une monarchie parlementaire, sauf qu'en Thaïlande, le Parlement n'a jamais pu fonctionner durablement. Il a toujours été contrebalancé par deux institutions qui représentent les intérêts de la monarchie. C'est d'une part le Sénat, nommé, et d'autre part le Conseil privé du roi, également nommé. Donc c'est deux institutions qui sont royales. Et à ces deux institutions, on peut évidemment ajouter l'armée qui, surtout depuis les années 50, réalise coup d'État sur coup d'État. Dès que le Parlement gagne un petit peu en confiance, on a un coup d'État, donc tous les 6 ans en moyenne en Thaïlande. Et puis depuis les années 90, on a un nouvel acteur qui émerge, c'est la Cour constitutionnelle qui a dissous les partis politiques au pouvoir les uns après les autres et qui a destitué tous les premiers ministres élus depuis 97. On a un coup d'État judiciaire tous les 3 ans en moyenne.
Oui, allez-y Eugénie Mériot.
Qui sont toujours réalisés au nom du roi et qui sont validés par la signature royale. Et donc j'en viens à mon point qui va répondre à votre question, c'est en Thaïlande, il y a un pouvoir de sanction royale qui n'est pas contrebalancé par le parlementarisme, par le contre-saint ministériel. Et donc on a un système dans lequel l'exercice du pouvoir royal n'est pas contraint.
Et donc il faut dire quelques mots du roi, sa majesté Ramadi, qui donc juridiquement est un monarque constitutionnel, mais dans les faits un monarque absolu, si on suit bien ce que vous nous dites.
Oui, absolument. C'est-à-dire qu'il a le pouvoir de nomination, il a le pouvoir de dissolution de l'Assemblée, il a le veto royal. Et donc, ses prérogatives qu'il exerce et qu'il a exercé vraiment avec beaucoup d'aplomb depuis qu'il est venu au pouvoir. Il a même fait réviser la Constitution alors qu'elle avait déjà été approuvée par un référendum. Eh bien, il exerce ses pouvoirs.
Qu'il exerce depuis 2016. Pourquoi en Allemagne? Qu'est-ce qu'il fait en Europe, ce roi? Pourquoi il est toujours en Europe?
Alors, c'est une question qu'il faudra lui poser directement. Il aime jouir des plaisirs de la vie et donc cette vie hors de son royaume lui permet davantage de liberté que s'il était dans sa cage dorée au Palais Royal à Bangkok.
Il est considéré comme un avatar par certains du dieu Vishnu. Est-ce qu'il a un statut de droit divin ? Je veux dire, c'est écrit quelque part ?
Alors, on a toute une série de doctrines royales qui donc, oui, assimilent en effet le roi à un avatar du roi Vishnu. Donc, il y a à la fois de l'hindouisme et du bouddhisme qui élèvent le statut du roi. C'est aussi un Dharma Raja, c'est-à-dire un roi le plus vertueux dans le royaume. Néanmoins, ça reste quand même des doctrines qui ne sont pas réellement efficaces, même si on a toute une génération de juristes constitutionnels, notamment, qui lient ces doctrines-là à un certain exercice du pouvoir royal et donc qui utilisent ces doctrines pour dire que la monarchie thaïlandaise est unique et qu'à ce titre, elle doit exercer le pouvoir, contrairement à, par exemple, une monarchie de type britannique qui a uniquement un pouvoir cérémonial.
Monarchie britannique qui inspire d'ailleurs les manifestants thaïlandais. Qu'est-ce qui a déclenché, Eugénie Mériot, ces manifestations de l'été ? Pourquoi maintenant ?
Alors, l'élément déclencheur, ça a vraiment été la dissolution du parti Future Forward en février de cette année. C'était un parti qui portait les aspirations de la jeunesse, qui avait été élu triomphalement en 2019. C'était le troisième parti représenté au Parlement et donc il a été dissous par la Cour constitutionnelle.
Sur quel motif ?
Sur un motif, vous savez, la Cour constitutionnelle pioche parmi les différents motifs qu'elle peut trouver. Donc là, en l'occurrence, c'est un argument selon lequel le fondateur du parti a fait un prêt au parti et c'est interdit par les lois sur le financement des partis politiques.
D'accord.
Donc c'est vraiment très alambiqué.
Et bam, d'ailleurs, interdiction pendant 10 ans. Voilà.
Voilà. Pendant 10 ans, donc ça c'est le premier déclencheur, mais après donc il y a eu le coronavirus, donc la contestation s'est déplacée sur les réseaux sociaux, et puis il y a eu toute une série de nouveaux éléments à partir de juin qui ont vraiment mis de l'huile sur le feu, par exemple la disparition forcée et le meurtre d'un activiste, Wanchalerm Satsakit, au Cambodge en 2020, sachant que ce n'est pas le premier. Tous les exilés suite au coup d'État de 2014 sont au Laos, au Cambodge et dans les pays voisins. On en a quelques-uns en France, d'ailleurs, je le mentionne au passage. Mais en tout cas, ces personnes-là disparaissent fréquemment et on retrouve leurs cadavres flottant dans les eaux du Mékong. Et donc ça a été également un motif de mécontentement. On a aussi eu ce cas d'une personne qui portait un t-shirt « J'ai perdu foi en la monarchie » et qui a été internée de force en hôpital psychiatrique. Et donc, encore une fois, on a eu des hashtags sur Twitter, mais moi, je n'ai pas perdu la foi en la monarchie car je n'ai jamais eu la foi en la monarchie. Et ça a été l'un des premiers hashtags sur Twitter. Alors, puis, on peut rajouter aussi les extensions multiples du décret d'urgence en Thaïlande, soi-disant pour faire face au coronavirus, alors qu'il n'y a pas eu de cas de coronavirus depuis mai en Thaïlande. Voilà.
Alors, est-ce qu'ils n'ont plus foi ou n'ont jamais eu foi en la monarchie ou en la monarchie telle qu'elle est exercée ? C'est-à-dire, est-ce que les manifestants demandent une réforme ou l'abolition de la monarchie ?
Alors ça, c'est une question très délicate. Il y a un des mots d'ordre qui est « Chop Tirun Rao ». Ça veut dire « Maintenant, ça s'arrête avec notre génération ». Et donc, c'est très ambigu. On ne sait pas exactement de quoi il retourne. Les manifestants ont émis 10 revendications qui sont vraiment inédites. Je peux vous en citer quelques-unes. Par exemple, la fin de l'inviolabilité du roi. Donc ça, c'est tout à fait inédit. L'abolition de la loi de lèse-majesté, l'abolition du conseil privé du roi, l'interdiction au roi de valider les coups d'État, séparation des biens personnels du roi et des biens de la couronne, etc. etc.
C'est plusieurs dizaines de millions d'euros, hein, d'ailleurs, je crois, les biens de la couronne. Enfin, ça représente une somme considérable qui pourrait servir à la Thaïlande.
Selon Forbes, le roi thaïlandais est le plus riche monarque en exercice actuellement. Et oui, la Thaïlande, c'est un pays extrêmement riche, qui est autosuffisant en matière naturelle, quasiment pour tout. Mais c'est un pays qui demeure un pays pauvre. On a une large part de la population qui est sous le seuil de pauvreté. On n'a pas d'état de welfare state en Thaïlande. Et donc, c'est une des revendications également de réallouer ce budget pour le bien-être du peuple thaïlandais.
Est-ce que vous avez l'impression, Eugénie Mario, que ce mouvement est vraiment un mouvement de jeunesse? Il est parti des universités, mais est-ce que c'est vraiment générationnel? Ou est-ce que les parents, les anciens soutiennent?
Alors, je pense qu'il y a deux aspects. Déjà, il y a une filiation très forte avec les chemises rouges de 2010. Donc, c'est l'ancienne génération. Par exemple, Anan Nampa, qui est l'avocat star actuellement des manifestations, c'était également un des jeunes avocats des chemises rouges en 2010. Donc, on a cette filiation et donc les anciennes chemises rouges, qui étaient quand même un mouvement extrêmement massif, soutiennent les manifestants, mais ils ne s'impliquent pas. Pourquoi? Parce qu'ils veulent justement permettre aux manifestants de garder leur pureté, leur innocence, qui les protège, parce que la répression, on peut en parler, l'armée tire sur les manifestants en Thaïlande, mais d'abord, il y a un processus de diabolisation, de déshumanisation des manifestants. En 2010, c'était les manifestants sont des terroristes, en 76, c'était les manifestants sont des communistes. Et là, aujourd'hui, on a des manifestants qui sont en uniforme d'écolier, qui ne sont pas du tout pollués par, on va dire, les partis politiques, et ça leur permet de se protéger. Et juste le deuxième aspect, c'est oui, en effet, on a vraiment un mai 68, en fait. On voit très bien qu'il y a beaucoup de revendications qui portent sur l'école, notamment par exemple, la libéralisation des méthodes d'éducation à l'école. Vous savez, en Thaïlande, les écoliers se prosternent devant leurs professeurs. Et en fait, c'est toute une éducation à la hiérarchie qui se fait dans les écoles primaires et au collège, etc. Et donc, ils s'élèvent contre ça pour remettre en cause l'ensemble de l'ordre hiérarchique de la société.
Alors, en quelques mots, Eugénie Mario, on arrive à la fin de cet entretien. Est-ce qu'on sent une certaine fébrilité de la part de la monarchie? Est-ce qu'elle est inquiète ou est-ce qu'elle se sent toujours intouchable?
Ah, c'est difficile à dire. Vous savez, le roi, il pourrait reproduire ce qu'a fait son père avant lui pour construire la légitimité de la monarchie, c'est-à-dire s'interposer s'il y a une escalade de la violence. Donc ça pourrait être une manière pour le roi de construire sa légitimité. On a vu déjà qu'il a demandé à l'armée d'arrêter d'utiliser la loi de lèse-majesté, donc c'est un bon point. Mais puis, il y a quand même le revers de la médaille, c'est que le roi n'est pas du tout indifférent à ce qui se passe à son royaume, contrairement à ce qu'on veut faire entendre. Par exemple, tout ce qui touche à la politique de la mémoire à Bangkok, le roi est très impliqué. Il a fait disparaître tous les monuments thaïlandais qui commémoraient la révolution de 1932.
Merci beaucoup, Eugénie Mario. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Idées reçues sur la Thaïlande aux éditions du Cavalier Bleu. Bonne journée à vous à Bangkok. Merci.
France Culture. L'esprit d'ouverture. Au cœur des mécanismes de l'écriture, sur France Culture, la salle des machines, Mathias Hénard.
La salle des machines, ce sont des autrices et des auteurs qui viennent partager leur expérience d'écriture. Des romancières, des romanciers, des dessinateurs ou dessinatrices de bande dessinée qui nous ouvrent leur monde. Mettez un livre dans votre moteur.
La salle des machines, le dimanche à 17h sur France Culture et sur franceculture.fr. Chaque samedi sur France Culture, à 11h, Affaires étrangères, Christine Ockrinthe.
Tout va si vite. Comment comprendre les palpitations d'un monde où tant de protagonistes interviennent et plus seulement les États, où tant d'enjeux s'entrechoquent, où tant de progrès et de reculs s'entremêlent? Plus que jamais, écoutons les meilleurs experts en France et ailleurs.
Focus cette semaine sur le Liban. Le Liban à l'heure de la reconstruction. Analyse, décryptage et enjeux, Affaires étrangères ce samedi à 11h et sur franceculture.fr.
Vous écoutez France Culture 6h57. Bonjour.
Mais oui, c'est ça, Julie Gacon. Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Votre humeur du jour, la question du Covid devient une question géopolitique en France.
Le coronavirus est devenu une question géopolitique au sens premier de ce terme, la géographie et la politique. C'était une pente certaine depuis le confinement, mais c'est aujourd'hui explicite. La pandémie met face à face notamment deux villes, deux pôles, deux régions qui sont autant de symboles. Paris contre Marseille. D'un côté, le professeur Raoult qui dirige l'IHU. De l'autre, les professeurs parisiens, je ne sais pas, Karine Lacombe, chef de service à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, ou bien encore Jean-François Delfrécy, président du comité scientifique, cette opposition Marseille-Paris sur le plan scientifique se prolonge évidemment sur le plan politique. Paris, l'Élysée, son ministre de la Santé, Marseille, une opposition unie des Républicains, la France insoumise en passant par les Verts, protestant contre des mesures jacobines. Décidé donc à Paris, notamment la fermeture des bars et des restaurants à 23h à Marseille. Paris contre Marseille. Paris, osant croire qu'il gouverne. Marseille, Marseille, gouverné, humilié, mais Marseille, libéré ou espéré en tant que ville libérée par ses élus qui sont toujours prêts à s'unir contre les diktats venus de la capitale. Alors, ce qu'il y a de merveilleux dans cette opposition, c'est qu'à grands coups de chloroquine, de thèse, de vidéo du professeur Raoult, on rejoue l'une des pièces les plus classiques de notre répertoire politique, celle des Deux France. Il y a eu des centaines de versions de cette pièce. Alors, je ne sais pas, on peut citer celle théorisée par Emmanuel Todd, Hervé Lebras. Deux France, également recherchée par le sociologue Henri Mandras. Deux France, atomisée récemment par le politologue Jérôme Fourquet. Les Deux France devenant pour l'occasion l'archipel français. Mais les premières de France, eh ben on les doit à un certain Baron Dupin, alors aujourd'hui bien méconnu, mais justement je voulais en rappeler le souvenir. Ce Baron Dupin n'est autre que Charles Dupin. Il est né en 1784 dans la Nièvre, à Varzy. Je sais que c'est une ville qui vous est chère, Julie. Mort en 1873, on lui doit donc, entre autres, la première théorie des deux France, la fameuse ligne Saint-Malo-Genève. C'est lui qui l'a créée, symbole de la dualité entre la France industrielle et urbaine du nord-est et la France agricole et rurale du sud-ouest. L'affrontement Paris-Marseille qui se déroule en ce moment montre que cette ligne imaginaire conserve encore toute sa réalité.
7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Et dans quelques instants, on va faire le tour de la France, le tour du monde, et mais on va surtout parler du Tour de France bien tardif cette année, 7h sur France Culture.